Bonjour Dominique.
Bonjour Fabienne.
Et bonjour à tous, évidemment.
Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous.
Alors ?
Bah écoutez, monsieur, il y a une nouvelle loi qui est passée, due à monsieur Dupond-Moretti, notre ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour permettre aux gens de choisir leur nom de famille. Soit ils choisissent le nom du père, soit ils choisissent le nom de la mère, soit les deux. Voilà. Donc
Alors, ça va être compliqué, hein.
Pourquoi ?
Bah, dès qu'il y a un divorce.
Ah oui, c'est ça, mais après, on peut avoir les trois, les quatre, non ? Je sais pas.
Non, mais il y a un divorce. Par exemple, L'enfant, il veut supprimer un nom.
Oui.
On recommence, on va devant la justice et on demande à ce que ce soit supprimé.
Non, on peut qu'une fois dans la vie.
Ah, bon.
On peut qu'une fois dans la vie. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même incroyable. C'est des faux cadeaux, ça. C'est de la démagogie, dans le pire sens du terme. C'est-à-dire que on complique la vie au lieu de la simplifier. Quand vous étiez et que vous aviez le nom du père, il n'y avait pas à discuter, vous aviez le nom du père. On vous mettait pas sous le nez la possibilité d'un choix. Donc la difficulté d'un choix. Tout choix suppose une difficulté. Faut se prononcer.
Oui, mais attention, avant Dominique.
Oui.
Parce qu'au fur et à mesure, ça c'est compliqué. Parce qu'avant, vous vous mariez, vous preniez le nom de votre époux.
Oui.
Donc tout le monde avait le même nom dans la famille.
Oui.
Petit à petit, on dit, bah non, l'épouse peut garder son nom de jeune fille.
Oui, elle a toujours pu. Hein.
Ah bon ?
Ah ouais.
Ah pardon ?
Ah oui, c'est pas l'usage, mais elle a toujours pu.
Oui, épouse.
Elle le perd jamais.
Oui, mais dans les papiers officiels, vous ne le sortiez pas.
Ah ben, c'est si, madame Duchemol, épouse, comme vous disiez, c'est ça, voilà. Elle perd pas son nom de jeune fille.
D'accord.
Mais elle ne le transmet pas, voilà.
Donc maintenant, elle peut s'appeler avec les deux noms.
Oui.
Et maintenant, les enfants, oh ben, ils vont arriver, ils vont avoir quatre noms derrière.
Voilà. Oui.
Moi, si ça leur fait plaisir, c'est des trucs,
pour dire, voyez, on a fait quelque chose, on a fait des réformes. Voilà, on a fait des réformes, les gens maintenant peuvent choisir leur nom et leur nom. Mais
ceci dit, il y a beaucoup de gens qui changent de nom. Je peux vous dire, hein, je regarde dans les annonces, très souvent il y a des gens qui demandent de changer de nom.
Ah,
c'est
oui,
bizarre, ouais.
Ouais, c'est bon. Les gens qui ont un nom qui est... Mais c'est prévu par le code civil, ça. Si votre nom est ridicule, vous êtes autorisé à le changer.
Oh bah, y en a plein qui vont changer d'ici quelques temps, parce que quand on voit... Même les prénoms, hein, parce que quand on voit ce qu'ils choisissent par rapport à la télé-réalité...
Objectivement ridicule. Je crois, si je me souviens de mes études de droit, qui sont quand même assez loin, y a deux cas, c'est-à-dire, c'est pour... Si vous avez un nom qui est beaucoup trop étranger, si vous voulez le franciser, vous pouvez. Vous pouvez franchiser pour une meilleure intégration, une meilleure assimilation dans la société, vous pouvez changer. Par exemple, M. Balladurian s'est francisé en Balladur. Voilà, c'est une façon de se franciser. Ou si votre nom est vraiment difficile à porter parce qu'il est porteur d'une notion ridicule.
Quoi. Ouais.
Voilà.
Là, je comprends tout à fait. Voilà. Et donc, là, ce sera une formalité administrative.
Oui, je pense, oui. On ira juste déclarer son intention. Mais ce que je cherche à dire, simplement, c'est-à-dire on complique la vie des gens. On leur dit, vous pouvez choisir. Donc, je vais choisir.
Ils ont l'impression d'être plus libres.
Mais non, ils ne sont pas plus libres. Ils sont enfermés dans l'obligation de faire des choix.
C'est... Vis-à-vis de leurs parents, etc.
Une fois que vous aviez un nom, vous l'aviez, puis votre liberté, vous l'exprimiez d'une autre façon. Puisque là, on vous dit, vous avez le choix, vous avez même choix du genre. Maintenant, vous pouvez décider si vous êtes un mec, une fille, entre les deux, ou voilà, vous vous rendez compte. C'est-à-dire que sur la tête de ces pauvres enfants qui sont en train de naître, qui sont en train de grandir, on accumule la nécessité de faire des choix. C'est-à-dire, on dévoie leur liberté. C'est un dévoiement de la liberté, ça. C'est-à-dire, on leur donne une responsabilité énorme. Il faut que je choisisse le nom de ma maman ou de mon papa. Si je porte le nom de papa, ça veut dire que j'aime moins ma maman. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ?
Et c'est à partir de quel âge?
Mais j'en sais rien, ma chère Fabienne, je pourvu
oh, ouais, bon,
pourvu
bon.
Le décret d'application encore, tout ça. Mais tout ça, c'est vous comprenez, on gomme les libertés véritablement importantes, c'est-à-dire de penser, de réfléchir. On fait en sorte, par la crétinisation ambiante, par la dépréciation de l'enseignement et de l'instruction, on prive les gens de la véritable faculté par eux-mêmes de se faire des opinions, de se faire des avis, et on leur distribue de la liberté de pacotille en disant vous pouvez choisir le nom que vous voulez porter à partir de celui de votre père, ou d'un copain de votre père. Si, bon, enfin voilà, mais oui, ça devient. Je trouve que c'est une société qui est en plein désarroi. On parle beaucoup du grand remplacement ou du grand je ne sais quoi. Je crois qu'on est au bord du grand effondrement. C'est-à-dire, on ne sait plus, tout est en train de se déliter. Hein, comme je le disais dans ces précédentes conversations, maintenant le discours scientifique n'est plus crédible. Le discours médical, quand on va aller chez son médecin, on va dire mais est-ce qu'il me raconte des conneries ou est-ce que c'est vrai alors qu'on n'était pas dans le doute auparavant.
Ah non, moi j'ai confiance en mon médecin.
Ben oui, en votre médecin, mais c'est très bien, ça vient de continuer. Mais voilà, mais il n'y a plus rien, tout devient relatif.
Mais bientôt ce sera une machine.
Hein. Oui, et c'est
vous rentrerez dans une machine, ça tournera autour de vous comme ça, et on vous dira ce que vous avez.
Bon, c'est très bien.
Vous verrez.
C'est très bien. Voilà. Et donc, je parlais l'autre jour d'inversion des certitudes. Bien, c'est pour ça qu'il y a un retour en force aussi du religieux. Vous avez vu que le religieux en permanence dans la campagne électorale. Hein, Monsieur Macron a donné une interview dans l'Express où il dit, j'ai la citation quelque part, Monsieur Macron dit dans l'Express, je crois profondément qu'il peut exister des continuités entre Dieu et la science, la religion et la raison. Mais dans le même temps, il rejette à la fois, c'est en même temps hein, chez Macron, le relativisme et le positivisme forcené. Alors, voilà. Et alors, tout le monde, M. Zemmour, dont vous regardez toutes les nuits
la rediffusion
de
son meeting de
Villepinte, dans son message de Noël, qui est plutôt un message de Noël extrêmement intéressant, il insiste sur le catholicisme. On doit beaucoup au catholicisme, nous Français, on doit beaucoup au catholicisme, et le monde doit beaucoup au catholicisme français, c'est sa phrase, tout ça. Donc c'est assez récent chez lui, ça, quand même, cet intérêt. Mais dès lors qu'il y a cet effondrement, on va vers des certitudes, des vérités qui relèvent de la croyance et de la foi, puisque la science est relativement défaillante à nous les apporter maintenant. Alors il y a un livre en ce moment qui cartonne, qui s'appelle Dieu, la science, l'épreuve, et qui est publié chez l'éditeur Guy Trédaniel, qui est un de mes deux éditeurs, et qui fait ce livre fin carton. Alors j'ai quelque part par ici, c'est le frère aîné de Vincent Bolloré, qui est un des auteurs, avec un autre ingénieur. Ce sont des ingénieurs, hein, qui sont catholiques affirmés, revendiqués, et ils ont le droit, absolument. Le frère de M. Bolloré, l'un des auteurs du livre, dans une longue interview de l'Express. J'ai pas lu le livre encore, hein, mais j'ai lu les longues interviews de M. Bolloré, notamment dans l'Express, où il dit clairement qu'il appartient à l'Opus Dei, et il dit que ce livre, c'est pas, contrairement à ce qu'on peut dire dans certains médias, une tentative de prouver l'existence de Dieu par la science, c'est de montrer que la science, les évolutions récentes de la science ne sont pas contradictoires avec la notion d'un Dieu créateur. Voilà, c'est ça l'objet du livre. Mais ils ont le droit de penser ça. Donc moi, je suis pas convaincu que la foi ait besoin de la science. Je pense que la foi est une affaire de transcendance, alors que toute la science, c'est l'immanence. Le principe de la science, il est dans la science elle-même, c'est la recherche. La science, elle recherche... On le voit bien avec James Webb qui va chercher l'origine des étoiles et tout ça. La science recherche le comment ça s'est produit, pas le pourquoi. C'est pas l'objet. Alors qu'on lit l'un et l'autre, moi ça me surprend, mais on a le droit, c'est une recherche tout à fait estimable et respectable. Moi je vais lire le livre parce que ça va m'intéresser, puis je vais probablement apprendre beaucoup de choses. Mais ce qui m'intéresse et ce qui m'interroge, c'est le succès. C'est un best-seller. Dieu, la science, l'épreuve, un best-seller. C'est-à-dire qu'il y a un tel désarroi. On est tellement paumé qu'on va chercher des choses, des manières de se conforter, de se rassurer dans des choses qui dépassent, qui sont plus totalement du domaine du rationnel, mais qui sont du domaine, de la croyance, de la foi, du dépassement de la réalité. C'est-à-dire le réel est en ce moment tellement pâteux, tellement incertain, tellement se dérobe. Sous nos pas, on avance et on a une réalité qui se dérobe sous nos pas, qu'on va chercher vers autre chose. D'où l'émergence grandissante de la religion, du fait religieux dans la campagne électorale. J'ai regardé par rapport à 2017. En 2017, personne ne parle de religion dans la campagne électorale. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Valérie Pécresse a fait dans le Figaro un article où elle reparle des racines. Je suis pas contre, je suis pas favorable au terme de racines chrétiennes, mais tradition, héritage chrétien, oui, racines, non. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on m'a posé la question ce week-end. Je suis contre les racines chrétiennes. Quelqu'un qui avait écouté notre conversation. Parce que quand si on parle de racines, les racines d'un pommier, on attend à ce que les fruits, ce soient des pommes. Le résultat, ça doit être la pomme. Si on dit racines chrétiennes, on s'attend à ce que le résultat de la société, de la civilisation, ce soit le christianisme. Tandis que si, comme dans mon point de vue de bon laïc, je dis le christianisme, c'est une des racines de la France, mais avec les religions païennes d'avant, avec la romanisation très importante, avec la grécisation très importante, ce sont des racines multiples et les fruits doivent être le résultat de cette diversité-là, cette diversité civilisationnelle-là. Et voilà, c'est pour ça que je suis un peu braqué là-dessus. Mais l'émergence du religieux dans la campagne électorale, il est parce que nous sommes dans une époque de véritable doute, d'incertitude. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. On est un peu dans le désarroi.
D'ailleurs, je remarque qu'il y a moins de visites dans les mosquées et dans les synagogues en ce moment quand même. Hein. C'est ce que je reprochais à tous nos présidents avant en disant ils vont tous dans les synagogues, ils vont tous dans les mosquées. Par contre, ils vont jamais dans une église.
Oui, ben si. Maintenant, vous allez voir, voilà, voilà. On se préoccupe beaucoup de ça. Ouais. Ça rejoint le discours que je commence à entendre beaucoup, enfin déjà depuis quelques semaines, c'est-à-dire que on reproche aux candidats aux élections présidentielles la capacité à donner du sens profond à leur candidature. Mais comme si on attendait du politique que le politique donne un sens. À mon avis, le sens, il doit être cherché ailleurs, il doit être cherché dans tout le corpus de notre civilisation, c'est-à-dire le sens. Et c'est aussi ça, c'est un peu ce désarroi qui fait qu'on va chercher beaucoup dans le passé. Dans le passé, c'est-à-dire il y a tout un discours, il est poussé à l'extrême chez M. Philippe de Villiers, et il est repris en ce moment par M. Zemmour dans le sens à travers le passé. On essaie de décrypter dans le passé quelque chose qui donnerait un sens au présent. Or, le problème, c'est le sens de demain. C'est quel sens donner à notre vie demain, à l'évolution de la société demain. Et ça, on n'y arrive pas parce qu'on est dans une période de doute extrêmement profond. Et on demande aux politiques de donner du sens, et c'est pas son boulot de donner du sens. C'est comment aménager la vie pour qu'on ait suffisamment d'assises matérielles, d'assises de société, de paix, de lien social, de références culturelles à partager pour qu'on puisse, à partir de ça, définir un sens à ce qu'on veut devenir. Mais ce n'est pas aux politiques d'une campagne électorale d'aller vers ça. On demande beaucoup trop.
Moi, je n'attends pas des politiques, en tout cas.
Voilà,
je n'attends plus rien.
Vous faites partie de ce grand nombre auquel je me rapproche de plus en plus de vous là-dessus. Je ne comprends plus, moi. Je ne comprends plus grand-chose.
Je rappelle quand même qu'Emmanuel Macron, dans sa campagne électorale, a dit pour les gérants d'entreprise, vous aurez le droit au chômage. J'attends encore que cette loi passe.
Ah oui.
Et qu'ils ne nous la remettent pas à son programme, à son prochain programme.
Hein. Ah ben, il va le faire, écoutez. Mais il va le faire.
Bien sûr, il va le faire. Bon, on se fait une pause.
Oui.